Fréquence protestante. La valeur de l'homme. Emmanuel Taïeb.
Écrire et manger. Bonjour à tous et toutes, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de La Valeur de l'Homme, aujourd'hui en compagnie de Sidonie Delin pour évoquer les journalistes gastronomiques. L'un des plus célèbres d'entre eux, Christian Millau, cofondateur du célèbre guide Go et Millau et disparu le mois dernier, disait « Dans ce métier, les gens savent soit écrire, soit manger, rarement les deux, parfois aucun des deux. Si vous savez faire les deux, vous êtes sûr de réussir. » La gastronomie est centrale en France, mais plus encore, l'écriture sur la gastronomie est ancienne et développée. Autour des questions de cuisine et de nourriture se déploient de nombreux dispositifs médiatiques et journalistiques. En 2010, il s'est écoulé 15,4 millions d'exemplaires de magazines culinaires. Et en 2014, 1760 nouveaux ouvrages consacrés à la cuisine ont été publiés. Tout ce qui sort sur ce sujet se vend donc très bien. Mais cet engouement contribue aussi à fabriquer une certaine vision de la gastronomie, hier attachée au terroir, aujourd'hui avide de critiques. Le rapport à la nourriture n'est donc pas seulement gustatif ou physiologique, il est aussi esthétisé et intellectualisé. Il est même patrimonialisé et parfois au plus haut niveau, le repas gastronomique des Français est entré en 2010 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Pour dire la nourriture, pour tester les restaurants, pour annoncer les tendances culinaires, pour arbitrer entre les chefs, se trouvent les journalistes gastronomiques. Une profession médiatrice entre les producteurs et les consommateurs, mais qui reste assez mal connue. Qui sont ces journalistes gastronomiques? De fins gourmets qui se piquent d'écriture ou des journalistes professionnels spécialisés dans la nourriture? Et comment fait-on carrière en écumant les plus belles tables de France? Nous allons essayer de faire le lien entre sociologie et écriture de la nourriture, essayer de faire le lien entre Herbert Marcuse et Paul Bocuse. Bonjour Sidonie Nolin.
Bonjour Emmanuel Taïeb.
Sidonie Nolin, vous êtes maîtresse de conférences en sociologie à Sciences Po Grenoble, spécialiste de sociologie économique, de sociologie des médias et du journalisme, et en particulier donc des journalistes culinaires. Vous venez de publier un ouvrage intitulé « Des mots à la bouche, le journalisme gastronomique en France » en coédition aux presses universitaires de Rennes et aux presses universitaires François Rabelais en 2017. Alors Sidonie Nolin, est-ce que au départ l'objectif de votre ouvrage était de dire que le fait alimentaire est bien, au fond, un objet légitime de la sociologie? On peut travailler sur ça, sur la nourriture et sur l'écriture sur la nourriture?
Alors que le fait alimentaire soit un objet légitime de la sociologie, je pense que c'est désormais quelque chose qui est acquis. Ça a été, en sociologie, ça a été moins questionné sans doute que dans d'autres disciplines.
En anthropologie, comme, par exemple, c'était très travaillé.
Oui, l'anthropologie ou l'histoire qui ont mis longtemps en fait, avant de s'intéresser aux faits alimentaires comme étant dignes de faire l'objet d'études scientifiques. En sociologie, il y a tout un champ de sociologie autour de ces questions-là, mais avec des approches très différentes selon qu'on s'intéresse à la production, à la consommation ou, dans mon cas, à l'intermédiation entre les producteurs et les consommateurs par le biais du journalisme.
C'était aussi un peu la question économique, c'est-à-dire l'économie autour de ça qui vous intéressait ou davantage vraiment l'écriture, la médiation entre producteurs et consommateurs?
Alors, la médiation, elle a deux sens pour moi. C'est à la fois une médiation d'ordre symbolique. On va vous donner des représentations de ce que c'est que le bien manger, qu'est-ce qu'il faut faire comme type de cuisine, quel aliment il faut choisir, quel type de restaurant, dans quel restaurant il faut aller. Donc une prescription d'ordre culturel d'une certaine manière. Et en même temps, c'est indissociable aussi d'une prescription plus économique, puisque en recommandant tel ou tel restaurant, tel ou tel produit ou tel ou tel, produit d'électroménager, on va indirectement faire une forme de publicité, on va mettre en visibilité certains éléments qui vont avoir des enjeux pour des acteurs économiques qui sont des producteurs derrière tout cela. Donc les deux enjeux à la fois symboliques et économiques sont assez indissociables concernant l'alimentation.
Et puis c'est aussi un fait culturel, l'alimentation, c'est très important pratiquement dans tous les pays. Enfin, il y a une forme d'identité d'identité entre guillemets qui se diffuse à travers ça. Donc parler de cette identité ou parler de ce fait culturel, Sidonie Nolin, c'est quelque chose d'important. Ça crée du travail, du texte, ça fabrique quelque chose.
Oui, alors la dimension identitaire de l'alimentation, c'est un champ de recherche en soi, puisqu'il y a toute une un questionnement à la fois aussi autour des usages politiques de l'alimentation, comment dans la diplomatie on fait usage de l'alimentation pour représenter, pour communiquer aussi, pour véhiculer des messages à d'autres pays, d'autres États ou d'autres groupes d'individus. Et puis au niveau individuel, alors d'autant plus à l'heure actuelle où on assiste à ce que vous aviez souligné en introduction, à une forme de patrimonialisation de l'alimentation. La reconnaissance par l'UNESCO du repas gastronomique des Français, c'est aussi très lié à des enjeux identitaires de reconnaissance d'une culture et d'un pays.
Alors, si Denis Nolin, je le rappelais, votre livre porte sur les journalistes gastronomiques. Donc, c'est à la fois c'est un travail de sociologie sur un champ professionnel ou disons un sous-champ professionnel. Qu'est-ce qu'ils font, ces journalistes gastronomiques? Pour le dire un peu autrement, quel est le rôle social des journalistes gastronomiques?
Alors, journaliste gastronomique, déjà, c'est une petite partie des gens qui écrivent sur l'alimentation. Il y a tout un tas d'autres professions, les romanciers, les historiens et autres, qui écrivent sur le fait alimentaire. Et parmi ces journalistes gastronomiques, il y a aussi différents sous-genres dans le journalisme gastronomique. Par exemple, les gens qui écrivent des recettes, des gens qui font plus de la critique de restaurants, ce qui est plutôt ce qui vient en tête quand on parle en général de journalisme gastronomique, et d'autres qui critiquent le vin, par exemple, qui sont encore des sous-champs professionnels au sein du journalisme gastronomique. Alors, leurs fonctions, en fait, elles sont de deux ordres. C'est ce qu'on mentionnait tout à l'heure, à la fois une médiation d'ordre culturel, de dire ce qu'il faut manger, comment il faut le manger, et une médiation aussi d'ordre économique. Et en fait, le journalisme gastronomique est né en même temps que, de manière concomitante, avec l'arrivée du restaurant. Les restaurants sont apparus en France, à Paris d'ailleurs, à la fin du XVIIIe siècle, juste à la suite de la Révolution française. Alors, une des explications serait que les cuisiniers qui travaillaient auparavant pour les aristocrates dans des maisons privées se sont retrouvés sans emploi et donc ont offert un service commercial par le biais des restaurants. Et avec l'apparition de ces restaurants, sont nés en même temps les critiques gastronomiques parce que, alors une des explications, c'était le besoin d'être guidé pour les consommateurs, de savoir dans quel type d'établissement aller. Et une autre explication, c'est que les bourgeois, qui étaient donc les consommateurs dans ces restaurants, n'avaient pas les codes, justement, l'étiquette, le savoir-vivre de l'aristocratie. Et donc les critiques avaient cette fonction plus culturelle d'apprendre les codes du bien-manger à une population qui n'avait pas été éduquée avec cet enseignement de l'étiquette aristocrate.
Donc déjà des formes de prescription, quoi, au fond.
Oui, tout à fait.
Où aller manger, comment manger si on veut imiter la classe supérieure ou l'aristocratie.
Oui, c'est les explications en tout cas qu'ont donné les historiens à cette concomitance de la naissance à la fois du restaurant et aussi des formes de critiques. Alors, sachant qu'à cette époque-là naissent aussi des critiques dans d'autres domaines culturels, le théâtre, la littérature, c'est aussi à cette époque-là que se développent au XIXe siècle ces formes d'écriture un peu particulières où on va porter un jugement sur des productions culturelles.
Allez-y.
Et ce qui suppose en fait une esthétisation aussi du fait alimentaire. Ça veut dire qu'on considère l'alimentation non plus seulement dans ses fonctions médicales ou physiologiques ou dans par le biais des prescriptions religieuses, mais avec un nouvel angle qui est un angle plus esthétique. En fait, l'alimentation pour l'alimentation, d'une certaine manière, si vous voulez parodier un peu, reprendre l'expression art pour l'art, c'est un peu ça, c'est cette idée qu'on va manger pour manger, donc on a besoin d'une approche plus esthétisante en fait de ce fait qui auparavant était considéré plutôt comme un fait strictement trivial ou avec des considérations, comme j'ai dit, plutôt médicales ou religieuses qui étaient aussi des formes de prescription sur ce qu'il fallait manger à un moment donné.
Vous dites à propos des journalistes gastronomiques, Sidonie Nolin, les fonctions qu'ils peuvent occuper, ils rendent rares un certain nombre de biens. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont faire une espèce de présélection et donc permettre de s'y retrouver dans un marché gigantesque, mais en sélectionnant. Donc il y a un travail là, prescriptif, éliminatoire. Enfin, il se joue quelque chose.
Oui, la prescription, elle se joue à deux niveaux. D'abord, une prescription basique à laquelle on pense quand on vous dit aller dans tel restaurant plutôt que dans tel autre ou manger plutôt tel type d'avocat plutôt que tel type de carotte. Là, c'est une prescription où on va vous donner une recommandation, mais en amont de cela, déjà, le fait de choisir un échantillon de restaurants qui vont être critiqués négativement ou positivement, ou de choisir de parler d'une variété de produits particulière, c'est déjà une forme de sélection et de mise en valeur de ces éléments-là. Donc le simple fait de sélectionner en fait dans tout ce qui est ce dont il serait possible de parler, certains éléments qui vont être évoqués, quel que soit le jugement après, positif ou négatif, qui est porté sur ces éléments-là, c'est une forme déjà de prescription. C'est un peu ce qu'on dit pour la critique. Peu importe que la critique soit bonne ou mauvaise, l'important, c'est qu'on en parle. Et en fait, c'est une forme de valorisation, le fait de parler. Toute forme d'information est en même temps une forme de valorisation de certains éléments.
Vous avez rappelé tout à l'heure qu'il n'y a pas que les journalistes gastronomiques qui écrivent sur le fait alimentaire. Et dans votre ouvrage, vous consacrez tout un chapitre à l'arrivée des blogueurs culinaires. Et quel est le... Alors, peut-être pas leur rôle, mais en tout cas... Est-ce qu'il brouille, au fond, la frontière, qui était une frontière relativement bien tracée, pratiquement depuis la Révolution, entre un journalisme critique et quelque chose de plus profane, une écriture, une appropriation populaire, entre guillemets, du fait alimentaire ? Les blogueurs viennent brouiller cette frontière-là ?
Oui. Alors, en partie, les blogueurs que j'ai étudiés sont les blogueurs qui écrivent sur des recettes de cuisine, essentiellement, donc... Eux, leurs concurrents, d'une certaine manière, sont les journalistes qui écrivent dans la presse spécialisée des recettes de cuisine ou même dans les suppléments culinaires et gastronomiques des médias, quels qu'ils soient. Et ces blogueurs, en fait, ressemblent beaucoup, à la fois dans leur propriété sociale et leur propriété sociodémographique, c'est-à-dire que, pour le dire plus clairement, comme les journalistes culinaires, ce sont quasiment exclusivement des femmes, et des gens qui sont un peu plus diplômés que la moyenne des femmes françaises. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi quand on regarde le profil des journalistes culinaires. Donc, à la fois, il y a une ressemblance avec ces traits sociodémographiques, et il y a une ressemblance aussi dans l'activité même, le fait d'écrire des recettes, de prescrire certains types de produits, de faire des revues critiques sur l'usage de tel ou tel instrument électroménager. À destination d'un public qui se veut le plus large possible, c'est quelque chose qui s'apparente très fortement à ce qu'on peut trouver dans la presse spécialisée ou dans les rubriques culinaires. Pour autant, ce qui est intéressant, c'est que subjectivement, les blogueurs se sentent très éloignés des journalistes parce qu'eux font ça au titre de leur loisir. Ils ont généralement une profession à côté qui leur apporte des revenus et donc ils ne vivent pas de leur activité du blog. Et aussi parce que c'est pas une perspective pour eux de devenir, enfin ils ne rêvent pas de devenir journaliste culinaire. S'ils rêvent de la cuisine, c'est plutôt pour ceux qui souhaiteraient se reconvertir comme professeur de cuisine ou comme éventuellement restaurateur, mais pas vraiment comme journaliste. Et ce qui m'interrogeait, c'est que en réalité, si on choisit un autre angle d'approche, du point de vue des professionnels de l'alimentation et notamment des marques qui souhaitent faire la promotion de leurs produits alimentaires, ils sont considérés plus ou moins de la même façon. C'est-à-dire que les blogueurs culinaires vont être traités de la même manière que les journalistes. Alors ça a été progressif au début. Il y avait une forme de mépris de la part des journalistes pour ces amateurs qui venaient faire le même métier qu'eux. Et progressivement, maintenant, les blogueurs sont intégrés à des campagnes de communication. Donc ça veut dire concrètement qu'on leur envoie des produits à tester, on leur fait tester les nouvelles boîtes de, je sais pas quoi, de haricots en conserve, par exemple, etc. Ou le nouveau mixeur de telle ou telle marque. Et donc, en fait, par les marques les traitant comme les journalistes, ils se retrouvent, ces amateurs se retrouvent confrontés à des problématiques très similaires à celles des journalistes, notamment à la question de l'argent et de la corruption potentielle qu'apporte l'argent, puisque quand on vous demande de tester un produit, c'est difficile ensuite, quand on vous offre ce produit, de dire qu'il est pas bon ou qu'il n'est pas fiable. Et donc, une frange des blogueurs, mais qui est quand même pas complètement négligeable, se retrouve confrontée à des problématiques assez similaires à celles des journalistes. Et par surcroît, le fait que ce qui donne du poids aux blogueurs, c'est la confiance personnelle qu'ils suscitent. En fait, si on suit les recommandations de tel ou tel blogueur, ou plutôt blogueuse culinaire, c'est parce qu'on sait que c'est une amatrice comme nous, qu'elle a à peu près la même chose dans sa cuisine que ce qu'on peut avoir. Et donc, et en plus, elle n'a pas d'intérêt, a priori, elle est désintéressée dans cette activité puisque c'est un loisir. Et donc, c'est pour ça qu'on va suivre ses recommandations. Et à partir du moment où elle commence à avoir des interactions soutenues avec les marques, quelles qu'elles soient, se pose cette question de la forme de confiance qu'on peut accorder aux blogueurs et on retrouve à nouveau ces problématiques de confiance qui se posent aussi pour les journalistes mais auxquelles les journalistes sont sans doute mieux formés pour y répondre.
On va écouter le poète de la gastronomie François Simon qui décrit son expérience à la brasserie Lippe.
Oh là là, vous avez repéré ? Brasserie Lippe. sincèrement, est-ce que vous y allez de temps en temps ? Vous devriez quand même, parce que ça fait partie des grandes figures de la gastronomie parisienne, ça fait partie de quoi ? De notre béret basque, de notre baguette, de notre pompon, de notre... Ouais, vous avez compris, tout le monde y va. Mais est-ce que tout le monde y mange véritablement ? Est-ce que tout le monde fait attention ? Ça, je ne sais pas, parce que c'est comme les gens qui regardent la télé comme ça, distraitement. Il faudrait les secouer par les épaules et leur dire « Ah oui, c'est comment ces frites ?» Bah, ces frites, elles sont pas bonnes. « Ah oui, il est comment le poulet rôti ?» Bah, le poulet rôti, il est pas bon. Et ainsi de suite. Regardez cette sauce, vous avez vu un peu ? Et ça, c'est de la mauvaise sauce, c'est de la sauce en bidon, et ça, c'est un poulet bidon aussi. Et c'est ça qu'il y a de marrant, en fait, chez Lip, c'est qu'on est tellement content d'être à Paris, on l'est, on est tellement content d'être rive gauche, nous le sommes, on est tellement content d'être chez Lip qu'on se dit, la vie est belle, et on oublie finalement que la nourriture est pataude. Ça fait partie de l'illusion parisienne, ça fait partie du simulacre, ça fait partie de ce que nous aimons à Paris, c'est-à-dire sa mauvaise soie, sa mauvaise grâce, son caractère de cochon, ses nourritures souvent approximatives, on s'en fout finalement. Parce qu'à Paris, on est bien, on est heureux, on boit des bons vins, et qu'importe si les nourritures de Lip sont gentiment nulles, que le baba au rhum est laborieux. Finalement, ce que l'on aime chez Lip, c'est de pouvoir dire du mal et de rigoler là-dessus. Mais sincèrement, entre nous, si les frites et le poulet étaient meilleurs, ce serait parfait.
La valeur de l'homme, écrire et manger. Nous sommes en compagnie de Sidonie Nolin. Bon, qu'est-ce qu'il fait dans cette chronique, François Simon ? Il souffle le chaud et le froid, il teste et il parle de Paris. C'est très étrange.
Alors, François Simon, c'est un personnage étrange et singulier dans le paysage des journalistes gastronomiques, puisque c'est actuellement le journaliste le plus central, je pense, dans le paysage gastronomique français, enfin du journalisme gastronomique français. Et qui a fondé sa reconnaissance, enfin qui a fondé sa notoriété justement sur ce type de chronique un peu décapante et avec un ton très très singulier. Alors, je me suis intéressée à sa trajectoire et j'ai essayé de comprendre pourquoi c'était François Simon le critique aujourd'hui dont tout le monde parle. Alors, quand je dis tout le monde, ce sont les journalistes. En fait, quand j'ai interrogé les journalistes gastronomiques, les deux tiers à peu près m'ont parlé spontanément de François Simon. Alors au début, moi, je mettais pas le sujet sur la table, mais effectivement, ça venait assez souvent. Alors avec deux approches différentes, soit pour présenter François Simon comme le modèle d'excellence dans la profession, c'est le meilleur professionnel actuellement, quelqu'un qu'il s'agit d'imiter à la fois dans son style, dans sa façon de faire des chroniques sur les restaurants, et inversement aussi pour dénoncer la facticité de cette construction d'un personnage très singulier dans le paysage gastronomique. Et c'est assez intéressant parce que François Simon, quand on regarde bien, il a pas inventé une nouvelle esthétique culinaire, il a pas non plus modifier fondamentalement les critères de jugement des restaurants. Il le revendique, enfin il le dit lui-même, que ses jugements ne sont pas particulièrement originaux. C'est pas quelqu'un non plus qui a découvert des talents, qui aurait découvert des cuisiniers que les autres n'auraient pas aperçus. Et en plus, il a même pas de guide ou de revue à son nom qui aurait pu expliquer sa notoriété. Donc sa notoriété au départ est un peu mystérieuse dans le sens où il remplit pas certains critères qui peuvent expliquer le fait qu'un journaliste soit plus connu que ses confrères. Et en revanche, ce qu'il a singularisé, c'est la mise en scène de sa méthode de travail. La revendication d'une méthode de travail très rigoureuse avec une application de la déontologie journalistique poussée à son paroxysme, donc notamment dans la critique gastronomique, ça passe par le fait d'aller dans les restaurants de manière anonyme, de payer ses additions. Ce qui est en fait déjà assez problématique parce que la plupart des journalistes n'ont pas les moyens de travailler comme ça puisque les supports qui les emploient ne leur paient pas les additions, donc ils sont obligés de se faire inviter.
Ce qui évidemment vient troubler complètement l'expérience.
Bien sûr, et qui en fait leur interdit d'une certaine manière, ou en tout cas les conduit à devoir faire des circonvolutions pour pouvoir critiquer négativement puisque quand on est invité, évidemment, si on veut être réinvité, et par politesse, on ne critique pas négativement. Donc, le fait, lui, d'avoir eu cette opportunité de travailler dans ces conditions est un facteur permissif qui lui a permis aussi de critiquer négativement, de faire ce type de critique. Et puis, c'est tout un art aussi de la mise en scène à la fois. Alors, à la télévision, il a mis en scène son anonymat de critique en montrant, alors toujours avec une forme de caméra cachée, il ne montre jamais son visage. et avec des impressions, montrer la température du restaurant, le volume sonore et autres, qui objectivaient en fait, en son expérience de mangeur et donnaient l'impression au téléspectateur d'être à sa place, en fait, de vivre l'expérience telle que lui la vit. Et à l'écrit, avec ce style qu'on entend aussi d'ailleurs à la télévision, enfin dans l'extrait de la chronique qui a été, ou à la radio, de la chronique,
ouais, chronique
qui a
vidéo,
été
là, mais...
publiée, oui. Ce style en fait d'écriture très singulier, avec des adjectifs qui sont un peu différents de ceux qu'emploient ses confrères. Là, il parlait d'un baba au rhum laborieux, c'est pas forcément le mot qui vient spontanément. Donc il a un style d'écriture particulier. Après, pourquoi il s'attaque à Lip, il m'a expliqué, effectivement, il est connu pour être une sorte de sniper dans l'univers de la gastronomie, pour avoir fait des critiques extrêmement négatives, ce que ne font pas la plupart de ses confrères. Mais il a toute une, si ce n'est une éthique, en tout cas des règles de conduite concernant les critiques négatives. Notamment, ça implique une précision très grande, c'est-à-dire qu'il ne faut pas critiquer, enfin, il ne faut pas se tromper quand on critique. Donc, si c'est un baba au rhum, ce n'est pas un autre dessert, et on n'a pas le droit à l'erreur quand on fait des critiques négatives. Donc, il a une très grande attention à la précision de ce qui est critiqué. Et surtout, il ne critique pas n'importe qui. Et en réalité, là, s'il s'attaque à Lip, c'est parce que Lip, c'est une brasserie qui est très connue, qui a une clientèle en partie touristique, et que, quelle que soit la critique qui sera faite de Lip, de toute manière, Lip aura toujours des clients qui viendront. Donc, on peut faire ce type de critique, soit pour des restaurants dans des lieux très touristiques, où de toute manière, la demande n'est pas du tout indexée sur les types de critiques qui sont publiées, et au fond, ça ne va pas les déstabiliser si la critique est négative, ou soit dans la très haute gastronomie, effectivement, pour les très grands chefs qui, eux aussi, ont une forme de clientèle captive qui, de toute manière, viendra quand même chez eux, quelle que soit la critique. En revanche, ils ne s'autoriseraient pas certainement ce type de critique sur un petit, un jeune restaurateur qui vient de s'implanter, qui s'est endetté pour ouvrir son restaurant et pour qui effectivement la critique peut avoir un effet plus important sur son volume d'activité. Donc il y a quand même une réflexion assez poussée sur le type de restaurant sur lequel on peut appliquer ce type de critique négative.
Et en l'occurrence ici, une institution dont on peut attendre beaucoup. Je voudrais qu'on dise un mot peut-être de sa carrière, et puis ça nous amènera à la question plus générale de la carrière des journalistes gastronomiques. François Simon, il est d'abord journaliste, généraliste, et puis il bifurque à un moment vers la question gastronomique, c'est ça ouais. Sa carrière, Sidonie Nolin ?
Tout à fait, c'est un profil assez courant de journalistes qui ont été d'abord journalistes avant d'être... Enfin, journaliste dans un secteur autre que la gastronomie avant de devenir journaliste gastronomique. Alors c'est son cas, il a été dans différents journaux avant d'être employé par Guémillot comme journaliste, et puis ensuite comme il est devenu critique de restaurant. Et lui explique en partie sa méthode, sa façon de travailler par ce passé journalistique, en disant « en fait j'ai appliqué les méthodes qu'utilisent les journalistes, les règles de conduite déontologique des journalistes ». Et avec une représentation du journalisme comme étant le journaliste d'investigation qui est actif, qui fait de l'enquête, qui a un jugement qui se veut neutre, etc. Et il aurait importé ça dans le domaine de la critique gastronomique qui fonctionnait plutôt avec des règles un peu différentes, des formes de proximité avec les restaurateurs qui ne sont pas celles que les journalistes attendent de leur relation avec leurs sources.
Sur les journalistes gastronomiques, précisément, ce que vous montrez, Sidonie Nolin, en tout cas pour les journalistes qui ont plus de 30 ans, c'est que, un peu comme François Simon, c'était au départ des journalistes professionnels, généralistes ou spécialisés sur une question, qui ont progressivement bifurqué vers la question de la gastronomie. Est-ce que c'est la carrière type, avec des nuances évidemment, mais est-ce que le bataillon principal, c'est ça, c'est-à-dire d'abord des journalistes qui vont ensuite vers le culinaire, Sidonie Nolin?
Alors les journalistes qui ont une formation école de journalisme ou études de journalisme qui ont eu une expérience de journalisme avant, hors cuisine, avant de passer dans la cuisine et la gastronomie, c'est effectivement un profil qui est aujourd'hui, je pense que ça correspondrait à peu près à la moitié, alors j'ai pas de chiffres très précis, mais environ à la moitié des journalistes en activité, et c'est un profil qui tente à être dominant. C'est-à-dire que les anciens, les profils antérieurs, les journalistes les plus âgés que j'ai interrogés, avaient des formes de carrière différentes. Alors, il y a trois types de trois grands types de carrières. Il y a un premier type de carrière qui était dominant dans l'après-guerre et jusqu'à seconde moitié du XXe siècle. Et il y en a encore quelques-uns, mais je pense beaucoup, presque plus aujourd'hui, qui sont des gens en fait qui avaient un autre métier, souvent des professions libérales ou des gens qui fréquentaient beaucoup les restaurants, qui avaient des connaissances dans le monde du journalisme et qui ont commencé à chroniquer en parallèle de leur profession, de leur activité professionnelle principale, et qui à un moment donné ont basculé et essentiellement à la fin de leur carrière, sont devenus journalistes gastronomiques. Donc ça, c'est des amateurs d'une certaine manière, des gens qui avaient une grosse expérience de consommation dans les restaurants ou de cuisine, qui ont ensuite transféré cette expérience dans le champ du journalisme. C'est un profil qui tend à disparaître. Après, il y a deux autres profils actuellement, des gens qui se reconvertissent et souvent de métiers proches de l'alimentation, c'est-à-dire notamment des gens qui travaillent soit dans l'agroalimentaire, soit dans l'événementiel gastronomique, et souvent dans des métiers de communication, donc assez proches aussi en termes d'activité, de contenu de l'activité du monde journalistique, qui développent aussi des liens avec le journalisme et qui ensuite se reconvertissent. Donc les cas types, ce sont les attachés de presse, par exemple, qui ensuite deviennent journalistes. Donc là, on a des femmes dans ce cas-là, enfin qui sont un peu surreprésentées dans ce groupe-là. Et la troisième forme de carrière, c'est les gens qui ont une formation journalistique. Et ceux-ci, effectivement, tentent à aujourd'hui devenir plus ou moins dominants, sachant que cette reconversion vers ce passage du journalisme au journalisme gastronomique, elle peut être soit subie, soit choisie. Ça va dépendre de la conjoncture du marché du travail. Alors, il y a des cas de journalistes qui rêvaient d'être critiques de rock ou qui voulaient travailler dans le journalisme musical, qui ne trouvent pas d'emploi et donc qui se retrouvent affectés à la rubrique restaurant et qui vont découvrir à ce moment-là ce travail-là et y rester ou pas. Et puis, il y a des gens qui le font par choix. Ça dépend aussi de l'attractivité, à un moment donné, de la rubrique. Il y a des périodes où la rubrique gastronomique était un peu méprisée et pas forcément très attractive. À d'autres moments, quand il y a des figures comme François Simon, aujourd'hui le guide du fooding ou autres, qui deviennent attractifs, ça peut susciter des vocations ou des carrières. Avec un point qui m'a surpris dans cette étude des trajectoires, c'est qu'on retrouve quasiment personne parmi ces journalistes, parmi les journalistes que j'ai interrogés. Enfin, il n'y en a aucun dans ceux que j'ai interrogés et très peu dans ceux dont on m'a parlé, qui ont une formation culinaire, en fait. Personne n'a de CAP de cuisine ou a d'expérience dans le monde de la restauration.
Voir ces cuisiniers...
Oui, voilà.
C'est pas les grands cuisiniers, pour le coup.
C'est davantage la compétence littéraire, l'écriture qui est importante par rapport à la compétence strictement technique culinaire.
Même s'ils n'aiment pas du tout qu'on les appelle critiques, hein, ils préfèrent garder le terme journaliste.
Oui, parce que pour eux, en fait, le critique, ça incarne justement celui qui juge et qui juge avec les critères des professionnels de la restauration. Et n'ayant pas, pour la totalité de ceux que j'ai interrogés, cette formation de cuisinier, ils ne se sentent pas habilités à porter des jugements sur la technicité culinaire. Alors après, ça, c'est leur discours. Dans la pratique, ça peut être un peu différent. Mais en tout cas, cette appellation est une appellation repoussoire. Le critique, c'est celui qui dit du mal des restaurants. Et ce n'est pas comme ça qu'eux veulent se représenter.
Merci, on va en rester là, ce sont les derniers mots. Merci beaucoup, Sidonie Nolin, d'être venu. On a profité d'un passage à Paris, donc vraiment, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Des mots à la bouche, le journalisme gastronomique en France, aux presses universitaires de Rennes et aux presses universitaires François Rabelais. C'est en coédition, c'est sorti en 2017. Merci à Boris, à la technique. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. À bientôt.